Les podcasts du Collège de France, littérature.
Comme vous le savez, je vais parler maintenant de Valéry. De Vermeer à Valéry, il y a quand même un saut quantique. Je pense à tous ces sauts que je vous oblige à faire chaque semaine. Heureusement que la pause entre les deux cours est relativement longue. Il s'agira donc du début, du tout début du Cimetière marin de 1920, les six premières strophes sur 24, et les voici. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpite, entre les tombes, midi le juste y compose de feu la mer toujours recommencée. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume main diamant d'imperceptible écume. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause. Le temps scintille et le songe est savoir. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, eau sourcilleuse, œil qui gardes en toi, tant de sommeil sous un voile de flamme. Ô mon silence, édifice dans l'âme, mais comble d'or aux mille tuiles, toi. Temple du temps, qu'un seul soupir résume, à ce point pur je monte et m'accoutume, tout entouré de mon regard marin. Et comme au Dieu mon offrande suprême, la scintillation sereine sème sur l'altitude un dédain souverain. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt, je hume ici ma future fumée et le ciel chante à l'âme consumée le changement des rives en rumeur. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés, mais pleines de pouvoir, je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. J'essaierai de lire le début du poème en oubliant ce qui en a été dit, avec pour seul guide la perspective du cours, la poésie française et la recherche de l'être, et mon intime conviction au sujet de la poésie, qu'elle effectue l'anacticis, la recréation, la transformation de la réalité telle que nous la concevons et vivons. Et je note, pas vraiment en passant, que pour sentir, pour comprendre un poème, une pièce de théâtre, un roman, il vaut mieux avoir sa propre façon de voir les choses. Il faut bien évidemment s'ouvrir à la voix de l'autre, afin d'apprendre. Il ne faut pas supposer que tout écrivain pense comme nous ou qu'il se trompe quand ce n'est pas le cas. mais l'objectivité est un leurre et l'objectivité absolue est un leurre absolu. Alors d'abord, que trouve-t-on en lisant les premiers vers et en essayant de faire abstraction de tout ce qu'on a écrit sur ce poème? Eh bien, on trouve des métaphores. Et des métaphores qui sont signalées. Ce toit n'est pas un toit, mais une mer. Ce ne sont pas des colombes, mais des barques de pêcheurs. Ce sont des métaphores que le premier vers signale ou que l'on reconnaît comme métaphore peut-être à partir du deuxième vers, comme si Mallarmé, Valéry, oui, il est vrai qu'on peut les confondre, comme si Valéry voulait attirer l'attention sur ce qu'il fait au début du poème. Ce qu'il fait au début du poème, c'est créer des métaphores. On continue. Les feux sont en réalité des reflets. Le calme des dieux est une façon de voir et de dire. Midi, le juste, est une autre façon de voir et de dire, une très belle façon, où le soleil de midi divise en deux comme un géomètre. Il divise en deux le jour, le mot midi, par son étymologie signifiant le milieu du jour, et il divise en deux le visible par une sorte de vertical imaginaire. Et notons la beauté de l'expression « midi le juste ». On voit le rapport entre justesse et justice, dont curieusement je parlais dans le cours de tout à l'heure. Et il est vrai que l'éthique est présentée souvent comme une sorte de géométrie exacte, non seulement dans Spinoza, mais ailleurs, et que nos langues portent le signe de ce désir très précis qu'agir selon le bien, c'est aussi agir selon la structure des choses. Vous voyez le rapport entre l'éthique et la géométrie, et on le voit dans le mot « droiture ». Quelqu'un qui agit selon la droiture fait une droite, ou en anglais, ce très beau mot, un peu vieilli maintenant, « righteousness », ou en allemand, « Gerechtigkeit », droit, right, recht. Et en plus de ces métaphores, il y a des noms simples, des noms d'ailleurs fort simples. Les pins, les tombes, la mer. Comme si Valéry, en même temps qu'il recrée le monde selon une vision métaphorique, voulait rester dans le monde tel qu'on le voit. Et il y a aussi, dès le début, des heures, mais des heures calmes, paisibles. Par exemple, la mer palpite entre les tombes. Non seulement le thé revient, mais il y a une sorte de heure entre la vie et la mort. La mer palpite comme le cœur palpite, mais entre des tombes. Le soleil compose de feu, la mer, et d'un vers à l'autre, feu et la mer sont juxtaposés, le feu et l'eau. Entre parenthèses, curieusement, cette première expression, entre les pins palpite, entre les tombes, peut rappeler une expression de Claudel que j'ai citée la semaine dernière, je crois, oui, où il parle du dur sépulcre et où il continue tout de suite avec la vivante, la palpitante, en parlant de Terpsichore. Le dur sépulcre, la palpitante, palpite entre les tombes. Il est plus ou moins certain que Valéry n'avait pas ce texte à l'esprit. Autrement dit, dès le début, il y a une plongée dans la métaphore et dans un monde métaphorisé, non pas métamorphosé, métaphorisé. Et dans son projet de l'enseignement de la poétique au Collège de France, Valéry étant un grand prédécesseur, Valéry écrit « Le poète qui multiplie les figures comme la métaphore, ne fait donc que retrouver en lui-même le langage à l'état naissant. » C'est une idée très romantique qu'on retrouve déjà chez Shelley, que à l'origine, une langue est une suite de métaphores, au contraire d'une théorie qui dirait qu'au début, on nomme des choses de façon tout à fait simple, et simpliste même, et qu'après, il y a une sorte de travail poétique sur le langage qui crée les métaphores. Au contraire, l'idée romantique du langage, c'est qu'au début, il y a des figures, et que c'est ensuite que, peut-être même malheureusement, le langage devient prosaïque et nominatif. Le poète qui multiplie les figures retrouve en lui-même le langage à l'état naissant, et c'est précisément ce que Valéry vise, me semble-t-il, au début du Cimetière marin. Mais il y a deux autres choses à dire à propos des métaphores. Que d'abord, les métaphores ne surviennent pas. Je veux dire que la surface de la mer est un toit dès le début, parce que l'on voit, quand on continue à lire le poème, que la pensée du poème est en quelque sorte déjà faite, et que la pensée du poème voit déjà dans le visible un temple simple à Minerve, qui a besoin d'un toit, vers 13, un édifice, vers 17, et un autre temple, temple du temps, au vers 19. C'est très intéressant parce que on peut écrire des poèmes de beaucoup de façons très différentes, les unes des autres, bien sûr. Et très souvent, en écrivant, on mime une certaine façon d'écrire. Et souvent, on mime un jaillissement de métaphores. Il vaut bien d'ailleurs mimer ce jaillissement qui cédait. Si on cède un jaillissement de métaphores, on se retrouve dans une sorte de chaos. On mime un jaillissement. Valéry fait presque le contraire de cela. Il mime une architecture déjà faite. Architecture, c'est le cas de le dire d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un édifice. Une architecture de métaphore déjà faite, d'où, me semble-t-il, l'immense calme du début, où même la métaphore fondamentale d'un édifice avec son toit, et qui serait peut-être le temple du réel visible, est en quelque sorte déjà là, avant le premier mot. Il y a cela d'abord qui me semble intéressant et assez rare en poésie. Mais il y a deuxièmement, et surtout, le fait que les métaphores sont justes. C'est le mot de Valéry, d'ailleurs. Les métaphores sont justes. Elles sont convaincantes pour les yeux et pour l'esprit. Elles sont, pour tout dire, vraies. La surface de la mer est un toit, une sorte de toit sur l'abîme, sur la profondeur des eaux de la mer. Les voiles blanches des bateaux qui dansent sur l'eau sont, en quelque sorte, des colombes qui picorent. On est convaincu. La mer au soleil est vraiment composée de feux. C'est ce que l'on voit. On voit des feux. On sait que ce ne sont pas des feux, mais on voit des feux. Main diamant d'imperceptible écume me semble absolument exact. Il n'y a pas de diamant sur la mer, mais on voit des diamants. On ne voit pas à une certaine distance l'écume qui est en effet imperceptible et qui est transformée en diamant. Tant de sommeil sous un voile de flamme me semble une description simplement vraie et merveilleuse de la mer. La mer est exactement cela. Sous un voile de flamme, tant de sommeil. C'est tout le contraire des images surréalistes. Nous sommes devant des métaphores qui disent ce que nous avons devant nous quand nous regardons la mer au soleil de midi. Des images surréalistes qui donnent une fausse impression de liberté. C'est ici que nous sommes libres, à cause de la discipline du regard du poète et de son travail de poète. Comment atteindre la réalité? Comment atteindre l'être du visible? Eh bien, répondrait Valéry, en observant les métaphores qui affleurent. Les métaphores qui affleurent. On a besoin, autrement dit, non pas de description qui vous donnerait la nuance exacte du bleu de la mer, par exemple, ou du vert de la mer. On a besoin non pas de description, mais de métaphores. Et je note la précision des figures. Le poète est bien plus précis dans son travail que la majorité des critiques. Alors que normalement, on dirait le contraire. Le critique est précis parce que la plupart du temps, c'est un universitaire qui a la discipline universitaire. Et on pense que le poète, bon, il laisse venir beaucoup de choses, il laisse passer beaucoup de choses. On parle même de licence poétique. J'ai toujours aimé cette expression qui est absolument folle. On parle de licence poétique comme si, bon, quelqu'un de sensé ne ferait pas ça, mais bon, La Fontaine, Racine, ils peuvent le faire parce qu'après tout, ce ne sont que des poètes. Au contraire, le travail du poète est extrêmement précis et le travail d'un grand poète est grandement, extrêmement précis. Autrement dit, au début, en plongeant dans des métaphores qui sont absolument nécessaires pour que nous voyions ce que nous avons devant les yeux, nous sommes dans l'anacticis, dans la recréation poétique du réel. Et nous sommes aussi dans une anacticis tout à fait valérienne, bien sûr, et même anti-chrétienne. Ce début du cimetière marin est une sorte d'anti-genèse. J'ai parlé du langage à l'état naissant. Nous sommes aussi devant un monde à l'état naissant ou à l'état naissant continu. Et quand il écrit « Quand sur l'abîme un soleil se repose » vers 10, on peut très bien penser au début de la Genèse, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand on regarde le vers 10 de Valéry, on voit qu'à la place de l'Esprit de Dieu, il y a le soleil. À la place des ténèbres, il y a la lumière, et que l'abîme est celui, non pas d'une sorte de chaos originel, s'il s'agit bien de cela dans la Genèse, d'une sorte de tohu-bohu, l'abîme n'a rien de mystérieux, c'est simplement celui de la mer. On pourrait penser aussi qu'un soleil qui se repose fait penser à un autre moment, au début de la Genèse, où c'est Dieu qui se repose au septième jour. Après les six jours de la création, il se repose au septième. Et à la place de la création par Dieu, on voit dans le poème de Valéry le temps et le songe, j'y reviendrai, qui sont ouvrage pur d'une éternelle cause. Nous sommes dans une sorte de philosophie de la création, de l'origine du monde. Nous sommes dans le discours un peu philosophique, finalement, d'une cause qui serait éternelle et d'ouvrages qui sont purs. Nous sommes très loin de l'idée d'un Dieu personnel qui crée par un acte de volonté et par un verbe. Et le monde est une sorte d'intelligence, une pensée, précisément, une pensée, un temple à Minerve, qui est la déesse de la sagesse, entre autres choses, mais je pense que c'est à cet attribut-là que Valéry pense. Et nous sommes devant, non pas la création de Dieu, mais devant le calme des dieux. Le calme des dieux qui semble en quelque sorte habiter le visible. Notons, entre parenthèses, la répétition de « tranquille » au premier vers, « calme », « paix » au vers 9. C'est la vision du monde comme une immense paix intellectuelle. C'est la vision du monde comme si, en quelque sorte, je ne dis pas ça méchamment, comme si Valéry l'avait créé. Et le visible ressemble aussi à une œuvre d'art, à un poème. Midi le Juste compose la mer, comme Valéry est en train de composer son poème. Les éclairs sur la mer sont un pur travail. Le temps et le songe sont des ouvrages purs. Et le poème devient de même un toit tranquille où marche des mots. Et une inversion attire aussitôt l'attention sur le fait que les mots marchent différemment en poésie. Au vers 2, entre les pins palpite. Très simple, mais extrêmement efficace. Une simple inversion, non pas palpite entre les pins, mais entre les pins palpite pour montrer de quelle façon marchent les mots d'un poème. Et le poème effectue finalement le changement des rives en rumeur. Le changement des rives en rumeur, au vers 30. C'est un vers qui vient évidemment de l'après-midi d'un faune, de Mallarmé, et là je peux très bien dire Mallarmé, où Mallarmé imagine que le dos ou le flanc pur des nymphes devient une sonore, vaine et monotone ligne, en jouant à la fois sur la ligne visible des corps des nymphes, sur une ligne mélodique qui est sonore, et sur la ligne ou le vers du poème. Mais Valéry transforme le vers, il transforme le visible en métaphore afin de le connaître, afin de le voir, et ici, il transforme le visible en poème, en son. Il accepte aussi, quand on y pense bien, il accepte aussi que le travail du poète ressemble à celui de la mort, parce que dans le contexte, ce sont les âmes consumées qui, dans le cimetière marin, dans leur tombe, entendent la rumeur de la mer. La mer est devenue pour eux uniquement une rumeur lointaine. D'où, évidemment, à cause de cette association du travail du poète avec la mort, d'où la fin du poème que je ne commenterai pas. Autrement dit, le poème commence par dire et redire le visible, comme si Valéry s'était demandé comment peut-on dire la mer à midi, de manière exacte et révélatrice. Et à la strophe 3, au vers 13-15, il donne simplement une série d'expressions. Stable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve, ou sourcilleuse, œil. Et comment appelle-t-on ce genre d'expression ? Eh bien, des périphrases. Et curieusement, la périphrase a presque toujours mauvaise presse. On suppose que les périphrases sont des façons de dire compliquées, quelque chose qu'on aurait pu dire avec un mot ou quelques mots. Longin en parle très bien dans son traité du sublime, au chapitre 28, si vous voulez consulter le passage, et Boileau traduit mieux que quiconque ce passage dans ce qui est pour lui le chapitre 24. Je n'en dirai rien parce que j'ai écrit là-dessus dans un texte, je ne m'appelle plus lequel, mais enfin c'est déjà là. Ce sont des périphrases, un peu comme si Valéry, sachant qu'il écrit après tous les romantiques, et en voulant revenir à la figure, en voulant remettre en valeur la figure de l'ancienne rhétorique, prend le risque d'écrire en trois vers cinq paraphrases. Comment peut-on dire ce qu'il voit ? Eh bien, c'est un stable trésor, c'est un temple à Minerve, etc. Il prend le risque et, ma foi, il triomphe, parce qu'il me semble que ces expressions-là réalise son rêve, qui est précisément de dire ce que l'on voit par des métaphores et des périphrases. Une deuxième chose à remarquer, évidente, mais au sujet de laquelle il y a peut-être encore des choses à dire, l'association du dehors et du dedans. Celui qui parle, je dis Valéry, pour faire bref, celui qui parle dans le poème sort d'une pensée pour jeter un long regard sur le réel. J'aime beaucoup cette expression, une pensée, pour dire une longue période de réflexion. C'est une expression tout à fait poétique. La vie intérieure est résumée en un mot. Des années de réflexion deviennent une pensée. Et beaucoup de réflexions constituent l'univers de cette pensée. Et sorti de sa pensée, il trouve, eh bien, il trouve le réel au moyen des métaphores et des périphrases qui se sont accumulées. Il trouve un langage à l'état naissant. Il sort de sa pensée pour trouver un toit. Comme s'il remontait du fond de lui-même, du fond de la mer, en effet. Et au vers 20, il écrit « À ce point pur, je monte et m'accoutume ». Il monte de la mer ou remonte-t-il même d'une tombe ? Dans le contexte, c'est la signification la plus évidente. Il est dans un cimetière et il monte vers la lumière. Il trouve un monde extérieur à lui-même. Le premier mot du poème, que l'on pourrait commenter pendant longtemps, le premier mot qui est « ce », est un peu anglais, comme vous savez, dans une poésie anglaise, et même dans la conversation en Angleterre, on utilise beaucoup plus « ce »,« celui-là », »,« celui-ci », etc., qu'en français. Il ne dit pas un toit ou le toit, mais ce toit. Et quand on arrive au vers 18, je dois dire qu'un Anglais se réjouit, parce qu'au vers 18, il y a un calembour. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. C'est un franc calembour. Mais comble d'or aux mille tuiles, toi, et comme tout le monde l'a vu, après une métaphore tout à fait vraie, encore une fois, comble d'or aux mille tuiles, c'est une façon très exacte de dire la mer au soleil. On arrive au mot toi, où on peut entendre T-O-I, et où Valéry veut qu'on entende T-O-I, et qu'à la relecture, on voit dans les premiers mots du poème ce toi tranquille. Le monde tranquille qui voit en dehors de lui-même. Et ce monde est un toi avec sa vie propre, mais qui est néanmoins une pensée. Et quelle paix semble se concevoir. Vers 9, plus tard dans le poème, à la strophe 13, midi sans mouvement, en soi se pense. C'est une pensée, c'est aussi un corps, le temps scintille qui est l'association absolument parfaite d'un concept et d'une sensation, de l'esprit et du corps, le temps scintille. À la strophe 11, ce qu'il voit, c'est-à-dire la mer en particulier, va devenir une chienne splendide. Encore une expression inattendue. La mer est splendide, pleine d'éclat, mais il est rare qu'une chienne le soit. Ce monde est une pensée, est un corps, mais ce monde est aussi en partie, comme on l'a bien vu, à l'intérieur. Vers 17, ô mon silence. Et on se rend compte que l'abîme se trouve en partie en lui, l'abîme du vers 10. Même vers, édifice dans l'âme. On se rend compte que le temple aussi est en partie en lui, parce que ce sont les métaphores, le langage humain qui construisent le réel, qui permettent de trouver le réel. Et on remarque aussi, au vers 21, qu'un long regard devient tout entouré de mon regard marin. Tout entouré de mon regard. D'où le songe et savoir au vers 12. Une expression très française, me semble-t-il. Presque toutes les recréations de la scène pourraient être anglaises, mais les vers 11-13 me semblent quintessentiellement français. Ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille et le songe et savoir. Le songe et savoir fait allusion à tout le poème tel qu'il s'est déroulé. La poésie a attiré l'esprit dans le monde et le monde dans l'esprit. Le songe n'est pas la contemplation, n'est pas la rêverie, est encore moins le rêve. Le songe, c'est connaître le visible par l'anacticis, par le travail de la poésie, par les métaphores, les songes et les rythmes. Et tout de suite après avoir écrit « Le songe est savoir », il écrit dans le vers suivant « Minerve », déesse de la sagesse. C'est aussi le premier emploi dans le poème du verbe « être ». Les autres verbes sont beaucoup plus sexy, pour ainsi dire. C'est aussi le dernier emploi du verbe « être » avant le vers 59. Il faut lire très loin dans le poème avant de trouver un autre emploi du verbe, qui est assez curieux, d'ailleurs. « Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre. » Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre. Et je ne pense pas qu'il faille être anglais pour penser que si tremblant est évidemment un adjectif, le marbre est tremblant, comme il peut être dur, etc., pour voir aussi la possibilité d'un verbe, est tremblant, is trembling, comme en anglais. Et l'être est en effet en jeu ici. C'est pour cela que je pense que Valéry pense lui-même ainsi. L'être est en jeu. Le songe est savoir. Le savoir est songe. Être, c'est savoir le réel en le songeant, en faisant du monde une pensée et de la pensée un monde. Le verbe, autrement dit, est ontologique. J'allais vous parler de l'espagnol maintenant, du fait qu'en espagnol il y a deux mots pour être comme copule, la pomme est sur la table, et être comme verbe ontologique, Dieu est ou Dieu n'est pas, etc. Mais je n'ai pas le temps, donc je ne le ferai pas. Mais il me semble très intéressant que dans une autre langue, on ait pensé au fait que le verbe être est abusé dans la conversation de tous les jours et qu'il a un sens ontologique qui est absolument essentiel et auquel il faut s'accrocher. Et l'association parfaite entre le moi et le monde serait donc, dans cette perspective, qui est valérienne, qui n'est pas la mienne, j'essaie simplement de voir Valérie, l'association parfaite entre le moi et le monde serait la mort. Strophe 5, tout d'un coup, après les métaphores, il y a des comparaisons. Comme le fruit se fond en jouissance, comme en délice, il change son absence. Après des métaphores, des comparaisons, signalées par le mot « comme ». Tout est signalé dans ce poème. Valérie joue franc jeu avec le lecteur. Et le « comme » du vers 22, entre parenthèses, n'introduit pas une comparaison. « Comme au Dieu, mon offrande suprême, égale en tant que mon offrande suprême au Dieu. » Mais ici, nous sommes dans les comparaisons. Et les « comme » font allusion à quelque chose qui n'est pas présent. Le fruit, c'est la première fois. Même le temple est présent dans la métaphore qui voit le réel comme un temple. Mais ici, on fait allusion à quelque chose qui n'est pas là, le fruit. Et le fruit est bien français. Le français trouve l'être du fruit en disant le fruit. Un poète anglais trouve l'être d'un fruit en disant « a fruit ». Et dans une traduction, là, on dirait « a fruit », à moins évidemment de vouloir rester dans la francité, la gallicité du poème de Valérie. Et la pensée ici aussi est très française, très belle. On passe de façon très complexe d'un ordre de choses à un autre. Le fruit devient jouissance, un objet devient une sensation. Son absence devient délice. Une abstraction devient une sensation. Et une forme se meurt. Une abstraction agit comme si elle était un être vivant. Et la complexité est nécessaire pour dire l'imagination de la mort. Tout est sensation, par exemple, dans le vers « Je hume ici ma future fumée ». Je note en passant l'avantage que vous avez en français, que nous avons en français, je suis naturalisé français, je parle français, l'avantage que nous avons en français de pouvoir dire « se fond, se meurt », de pouvoir dire par des verbes pronominaux une action réflexive où quelque chose disparaît en lui-même. Et si mourir, c'est se joindre à ce qui est, vivre, c'est être le secret changement, à la strophe 13, le secret changement. Dans un monde que l'on peut imaginer parfait, dans son immobilité, au moment absolu de midi. À bien y penser, j'aurais pu faire un cours sur la différence entre Vermeer et Valérie. J'y pense tout d'un coup. Vermeer, il y a une sorte de temps éternel, mais qui n'est pas une simple immobilité, qui est tout à fait différent de ce que l'on trouve chez Valérie. On peut imaginer un monde parfait, comme une sorte de temple immobile au moment de la solstice, finalement. Et dans le vers 31, « Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change », regardons d'abord ce « beau » décasyllabe. Le « beau » et le « vrai » d'une vision au fond platonicienne s'expriment dans l'ordre d'un décasyllabe à la coupe classique. Valérie se sert de la coupe après la quatrième syllabe. Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change. C'est absolument parfait, c'est absolument ce que fait la poésie. C'est un vers très attirant, surtout pour les Anglais, hein, pour ces Anglais. Parce que le début ressemble Vous savez que c'est la forme qu'il utilise presque exclusivement dans le poème. Et le début de presque tous ses vers ressemble au début d'un pentamètre iambique. Premier vers commence « Ce toit tranquille, faible fort, faible fort ». Un peu comme le sonnet 19 de Shakespeare, « Devouring time », temps qui dévore. Le deuxième vers commence « Entre les pins, fort, faible, faible, fort, entre les pins ». Un peu comme le sonnet 3 de Shakespeare commence « Look in my glass ». Seulement, ça ne continue pas comme ça, évidemment. La division 4-6 n'existe pas dans le pentamètre anglais. Et d'ailleurs, cette forme est exclusivement française. Elle n'existe pas non plus dans l'endécasyllabe italien ou espagnol. Ce sont les Français qui ont inventé cette forme, très contraignante et tout à fait satisfaisante. Et écrire ainsi, c'est se rappeler l'histoire de la poésie française, bien sûr, qui revient de temps en temps dans le poème, comme par exemple à la 17e strophe où Valérie dit en parlant à l'âme « Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?» où le deuxième « vous » disparaît, comme chez Villon, Racine, Ronsard. « Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?» Et aussitôt après avoir écrit « Regarde-moi qui change », Valérie change le vers. Il écrit le seul vers irrégulier du poème. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges, 5-5. Et on l'entend, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est le seul vers coupé ainsi, 5-5. On le faisait évidemment au XIXe siècle. C'est irrégulier uniquement si on veut écrire un poème avec tous les vers découpés 4-6. En pensant à lui-même, il change la rhétorique à la strophe 5 en introduisant des comparaisons à la place des métaphores et il introduit la prosodie à la strophe 6, un vers en 5-5. Si vous regardez le poème, vous verrez qu'il y a très peu de vers qui ne sont pas découpés 4-6 et qu'à chaque fois, il y a une raison et que Valérie vous donne cette raison. Et ce seul vers irrégulier est suivi du seul rejet. Après tant d'orgueil, après tant d'étranges oisivetés. Regardez le poème, c'est le seul exemple où le rejet est atténué par le fait qu'un seul mot de 4 syllabes remplit la première partie du vers. Comme je l'ai dit, le travail du poète est précis et le travail du poète Valérie est archi précis. Dernier détail, son frêle mouvoir à la fin. Sur les maisons des morts, mon ombre passe, qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. C'est presque précieux, mon frêle mouvoir, mais c'est parfait. C'est le substantif verbal. Bien sûr, ce n'est pas du tout comme en anglais, où le substantif verbal est un gérondif. En anglais, on dirait « it's fragile moving ». Un gérondif qui ressemble à un participe présent, « moving », où l'action est présente, comme l'est aussi le temps, « it's moving ». Et c'est encore plus beau dans « being ». La poésie et la recherche de l'être du monde et de l'être du moi, est en anglais la recherche of the being of the world, of the being of the self. Et en anglais, l'abstraction la plus abstraite est un processus qui épouse le temps. Mais en français, le mouvoir est un substantif verbal formé évidemment par l'infinitif, c'est-à-dire par la forme du verbe qui échappe au temps. Le mouvoir est en partie une action, en partie une idée, où il y a très peu d'actions et beaucoup d'idées. qui permet de s'abstraire du temps et de l'espace et de s'élever jusqu'à l'idée. Comme toutes les façons de faire de la langue française et par conséquent de la poésie française quand elle se laisse entraîner par la vertu de la langue. Mais l'action demeure et l'adjectif frêle garde le mouvoir clairement dans le monde du réel. Nous sommes dans un moment fascinant entre le verbe et le substantif, entre l'action et l'idée. Et dans le cas présent, afin de dire le mouvement du nombre. C'est extrêmement beau. Et c'est un moment où, précisément, le poète réfléchit à la vertu de sa langue et fait sortir de sa langue impossible que l'on n'y voit pas nécessairement. Et ayant dit mouvoir, il ajoute un adjectif, le frêle, mouvoir. Et dans la perspective du poème, le monde serait une perfection s'il était une idée sensible et immobile, alors que le moi est un frêle mouvoir. On note, entre parenthèses, l'étrangeté de la langue dès qu'un poète commence à écrire bien, le frêle mouvoir, par exemple, ailleurs dans le poème Midi, le juste, c'est la position de deux idées apparemment tout à fait séparées, et constamment à travers tout le poème, des juxtapositions tout à fait imprévues et révélatrices. On le remarque aussi, on la remarque, cette étrangeté, quand on regarde des exemples de la langue dans des écrivains du passé, des exemples qui sont maintenant désuets. Par exemple, dans un des cours de la première heure, j'ai cité l'article 72 des Passions de l'âme de Descartes, où il parle de l'arrivement subi de l'impression, l'arrivement de l'impression. C'est déjà, pour nous, poétique. Pour Descartes et ses lecteurs, non, parce qu'on disait ça. Au XIVe siècle, Eustache Deschamps, dans son art poétique, parle de plusieurs choses et autres instruments musicants. Ni instruments de musique, ni musical instruments, des instruments musicants. Et dans la même phrase, il dit que la musique fait des chants délectables en orgue et chalumeau par soufflement de bouche et touchement de doigts. Je trouve ça très beau, par soufflement de bouche et touchement de doigts. Et c'est presque une poésie symboliste, hein, de la fin du XIXe siècle. On entre donc dans un poème où le visible devient tout de suite métaphorique, mais vrai, dans un poème où le langage semble naître sous les doigts du poète, dans un poème où le réel est à la fois un intérieur et un extérieur, et où l'intérieur et l'extérieur s'associent, se mêlent, dans l'idéal deviendrait une même chose. Et je ne tiens pas, comme je l'ai dit au début, comme je l'ai laissé entendre, je ne tiens pas à interpréter le cimetière marin. Mais il est beaucoup plus intéressant de se demander si c'est un poème philosophique. Les commentateurs du poème supposent que c'est un poème philosophique. Après tout, à la fin, Valéry cite Zénon, cruel Zénon. Tout de suite, on lit Zénon, ensuite on lit les autres poètes présocratiques, on écrit des articles sur Valéry et la philosophie présocratique, etc. Bon, répondre à la question, permet de réfléchir sur la poésie et la recherche de l'être, et sur les rapports entre poésie et philosophie, qui étaient pour Valéry beaucoup plus aimables et beaucoup moins évidentes. Aristote, dans La Métaphysique, dit que la science la plus haute est désintéressée. D'ailleurs, c'est une des pensées clés de l'Europe. La science la plus haute est désintéressée. On veut savoir pour savoir. On veut connaître les premiers principes et les premières causes. Et cette science, dit Aristote, n'est pas poétique. Plus précisément, n'est pas poétique. Ce n'est pas une science poéticaire. Ce n'est pas une science de la production. Mais même si poétique, dans la phrase dont je l'ai extrait, ne signifie pas exactement poétique, la poésie aussi est une science de production. Serait-elle donc incapable de chercher les premières causes, etc., et surtout de chercher l'être? En poésie, on produit un poème. On n'est pas désintéressé. On a intérêt à produire un très beau poème. Et un poème ne disparaît pas en faveur de la vérité qu'il aurait découverte. La poésie cherche l'être et d'autres choses en situation, en acte, dans le vécu. Pascal, dans De l'esprit géométrique, écrit... On l'a réécrit depuis de façon beaucoup plus compliquée chez Kant, etc., mais il écrit de façon très simple et frappante. On ne peut entreprendre de définir l'être sans tomber dans cette absurdité, car on ne peut définir un mot sans commencer par celui-ci. C'est, soit qu'on l'exprime ou qu'on le sous-entende. Donc, pour définir l'être, il faut dire c'est et ainsi employer le mot défini pour la définition. Combien il a raison. Mais on peut créer un rapport à l'être et on peut dire que Aristote disparaît de son argument, il veut bien disparaître dès qu'il a convaincu son lecteur, alors que Valéry ne disparaît pas de son poème et en est très conscient. Dans un essai de 1933 intitulé « Au sujet du cimetière marin », il dit que le poème est la méditation d'un certain moi. Ça pourrait très bien être le sujet d'un cours. La méditation d'un certain moi. Vous voyez tous les sous-entendus de la phrase. Non pas de moi, mais d'un certain moi. Et c'est donc un certain rapport à l'être. En poésie, la poésie est une tentative pour réaliser l'être, par des noms, midi le juste, par la physicalité du langage. Une langue est physique, sensuelle en elle-même, entre les pins palpitent, entre les tombes. Mais on peut lire Pascal comme cela. Pascal, on ne peut entreprendre de définir. Voyez, personne ne le lirait comme ça. Il serait très fâché si on le lisait comme ça. Mais la langue est sensuelle et la poésie fait sentir la sensualité d'une langue. Parfois en créant d'ailleurs des formes imitatives. La mer palpite vraiment dans le vers qui le dit. La mer recommence dans les mots qui le disent. La mer, toujours recommencer. C'est le rêve de Cratyle dans le dialogue de Platon. Le rêve d'un langage qui épouserait parfaitement le réel. La pensée du poème n'est pas abstraite, n'est pas ce genre de pensée. Et surtout, Valéry pense en poète. Il oppose même une pensée à un long regard. Il oppose une pensée à un long regard. Et c'est par un long regard qu'il trouve, grâce à des métaphores, grâce à la poésie, l'être du visible. Et dans Le cimetière marin, Valéry n'est pas cet immense intellectuel français en train d'écrire un immense poème philosophique. Dans le cimetière marin, c'est un grand poète. Et il sait qu'il ne procède pas en philosophe. Et dans, au sujet du cimetière marin, il écrit à propos de Zénon et d'autres choses, mais je n'ai entendu prendre à la philosophie qu'un peu de sa couleur. C'est très important, un peu de sa couleur. La poésie n'est pas la philosophie et n'a pas pour mission de rivaliser avec elle. Elle fait autre chose. Elle fait mieux, je le dis. Et Aristote, dans la poétique, dit que la poésie est plus philosophique que l'histoire, parce qu'elle elle a pour sujet des universaux. Elle ne parle pas de ce que les gens ont, ce que X a fait dans une situation donnée, comme l'histoire. Elle parle de ce qu'un homme fait dans ce genre de situation. La poésie est plus philosophique que l'histoire, phrase célèbre d'Aristote. Et j'ajouterai que la poésie est plus historique que la philosophie, plus incarnée dans le temps, le lieu et la personne. Bon, la semaine prochaine, Yves Bonnefoy va venir parler. Il va parler sur la poésie. Il va probablement orienter ce qu'il dira de la poésie vers les sonnets de Shakespeare et ses traductions des sonnets de Shakespeare qu'il vient de terminer et qu'il va publier bientôt. Je dis probablement parce que je veux évidemment qu'il parle surtout de sa façon de voir la poésie, étant donné que c'est un poète français et il s'agit de la poésie française et de la recherche de l'être. Je lui ai suggéré que ce serait très bien de parler de ses rapports avec Shakespeare, étant donné qu'il y a précisément le rapport avec une autre façon de chercher le réel, l'être, du réel et du moi, etc. Mais je lui dis surtout que j'aimerais qu'il parle de ce qu'il voudrait parler. Et je suis sûr et absolument certain que ce sera merveilleux. Merci beaucoup.